J'ai vécu d'éveillé au coin du feu, à une époque où vraiment il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas grand-chose, dans des petits bleds de Haute-Margerie, très éloignés de tout. L'histoire était omniprésente dans les mémoires, et j'ai même connu des gens qui avaient encore des témoignages oraux, c'est-à-dire des témoignages de leurs grands-parents qui racontaient qu'on leur avait raconté que, etc.
C'est une histoire qui épate les touristes, c'est vrai. Mais attention, ce que je raconte, c'est une histoire vraie. C'est pas une histoire que j'ai inventée pour épater les touristes. C'est une histoire vraie qui s'est déroulée ici. C'est quand même ça, les racines du pays. C'est une partie de l'histoire du pays qui a énormément marqué les gens, hein, par contre. Moi, je connais des descendants de victimes, par exemple, à l'heure actuelle, qui sont encore capables de montrer l'endroit où leur aïeul a été dévoré, l'endroit précis, le lieu au coin d'un bois, dans un pré, dans un champ, l'endroit exact où la personne a été dévorée.
Sur les traces de la bête, par Marc Chazal.
Je suis la bête, paupières au poing et sang, rouge mes mains et mes cheveux. Je grignote la peau de leur crâne, car moi, j'adore les enfants. Je les déguste, déglutis avec leurs entrailles fumantes, que j'éclabousse sur les murs. Je hante, je vis, je hante. Je peuple le Gévaudan de tous les vertiges possibles.
Apparemment, le repère, c'était par ici. Hein, c'était la forêt de Tenzer qui est au-dessus de nous. Elle rayonnait un petit peu partout, autour. Le mont Mouchet, le mont Chauvet, le mont Grand. C'est ce qu'on appelle les trois monts ici. Certains appellent même ça le triangle de la mort. La bête a beaucoup sévi entre ces trois montagnes. Par contre, ça a commencé loin d'ici. Ça a commencé beaucoup plus au sud, à 70 km plus au sud, du côté de Langogne.
L'an 1764 et le 1er juillet a été enterrée Jeanne Boulet, sans sacrement, ayant été tuée par la bête féroce.
Donc là, les premières victimes, en 1764. Après, ben, les chasses, apparemment, il y a eu des chasses dans le coin qui ont fait remonter la bête sur le Nord-Lozère, des victimes vers Saint-Chély. Et après, pendant 2 ans, ça s'est cantonné ben, dans ce secteur des Trois Monts, quasiment.
Ce cadavre était tout nu. Il y avait une cuisse d'emportée, l'autre à demi rongé, ainsi que le derrière et les reins. Une joue dévorée, le col disloqué sans être coupé, y avant 8 blessures tout autour, l'empreinte de 4 grands creux au ventre. Il est vraisemblable que la bête avait d'abord saisi l'enfant au col par derrière et que, le traînant avec peine, elle l'avait ensuite pris par le milieu du corps. Description du cadavre de Claude Biscara, 9 ans, tué près d'Auvers, le 22 juillet 1765.
Les gens n'avaient pas bien le choix. Puisque, bon, ils faisaient appel aux autorités. On leur a envoyé d'abord l'armée du roi. Après, on a envoyé le premier porte-arquebuse de Louis XV, qui ont été quasiment incapables de faire quoi que ce soit. Surtout l'armée. L'armée, ça a été un échec total. Après l'armée, il y a eu un louvetier normand qui est venu d'Enval. C'était un chasseur de loups professionnel. Louvetier, ça voulait dire ça. Son métier, c'était de tuer des loups. Il en avait tué 1 200 chez lui, et pas un seul en Gévaudan. Donc, ben, les gens, ils se faisaient quand même du souci, hein. Leurs enfants étaient dévorés, et tous ceux qu'on leur envoyait étaient incapables de faire quoi que ce soit. Donc, il fallait qu'ils se prennent en charge eux-mêmes.
L'agilité de cette méchante bête égale sa cruauté. Elle fait environ 8 lieues par heure, ainsi qu'on l'a reconnue par les fracas qu'elle a faits dans un jour en différents endroits. Le Courrier d'Avignon, 8 janvier 1765.
Ce qui est complètement scandaleux, c'est que la bête a été tuée. Elle a été tuée une première fois par un chasseur du roi, et qu'à partir de ce moment-là, elle n'existait plus officiellement. Alors que pendant 1 an et demi encore après, elle a continué ses carnages. Et que plus personne, par contre, on ne voulait en entendre parler. Il y a deux périodes à distinguer. Il y a le temps de la bête officielle, c'est-à-dire celle où la bête existe pour la cour, pour le roi, pour toute l'Europe, et où elle est chassée, où il y a des battues énormes, jusqu'à 10 000 hommes qui la pourchassent. Puis le temps de la fin, où finalement elle agit encore, mais officiellement elle n'existe plus.
L'an 1766 et le 28 août a été enseveli au cimetière de la paroisse
Malgré tout, des gens qui continuent à souffrir, des enfants qui continuent à se faire attaquer, à mourir. Mais du côté du pouvoir, on ne voulait plus en entendre parler. C'était des loups qui terrorisaient les campagnes, alors que c'était pas des loups, c'était un autre animal qui, alors lorsque le second a été tué, effectivement, là, il n'y a plus eu d'histoire, alors qu'il y avait encore des loups.
Moi, je pense que la vérité, si elle sort un jour, ça sera des documents. Si un nouveau document sort, qui nous dise de façon claire et précise, qui apporte des précisions vraiment sur ce qu'était la bête, c'est comme ça qu'on pourra savoir de façon indiscutable. Alors c'est vrai que des documents, il y en a énormément sur la bête. Ils ont tous plus ou moins été explorés, mais bon, il peut y en avoir qui n'ont pas été encore retrouvés, ou qui n'ont pas été mis à jour, ou qui sortent de dépôts privés, ou des choses comme ça, quoi. Hein. On a toujours cet espoir-là. Tiens, rien que pour te donner un exemple... En 2009, on a trouvé une nouvelle victime de la bête que personne n'avait jamais trouvée. Elle était dans les archives du Cantal, il suffisait d'aller aux archives, de la lire, c'est tout.
Donc ça porte à combien le nombre de victimes ?
Alors, on est en train de les recenser, on est sûr de 78 actuellement. Il y a des auteurs qui vont jusqu'à 120, 120, 125, 130 même. Bon, celle dont on est vraiment sûr et certain, 78 pour le moment. Alors, au niveau des livres, voilà la base de la bête du Gévaudan. C'est le livre de l'abbé Pourchet. C'est un gros livre, puisqu'il a 1040 pages. 1040 pages, mais bon, c'est format livre de messe, grosso modo. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Pourchet, il n'a pas trouvé d'éditeur pour ses bouquins, pas d'éditeur, pas d'imprimeur, donc il a imprimé lui-même. Il a écrit son livre en 1889, et lui, il a recopié, je dis bien, à la main, tout ce qu'il a trouvé dans les dépôts d'archives. Il ramassait tout ce qu'il trouvait, il recopiait, et il a transcrit tout ça dans son livre. Il est même allé jusqu'à Paris, à la Bibliothèque Nationale, et il a retranscrit les documents qu'il y a trouvés. Et le deuxième intérêt de son livre, c'est la tradition orale. Comme il connaissait bien les gens, il allait les voir, les gens du pays, il leur demandait, ben, qu'est-ce que vous savez sur la bête? C'était 120 ans après les faits. Donc c'était quand même assez frais, dans la tête des gens, et il a transcrit tout ça dans son livre.
Au village de Légal, elle dévora un enfant. Le nommé Raymond s'était marié deux fois. Il avait un fils de ses premières noces et un autre des secondes. Cette marâtre ne voyait jamais d'un bon œil le premier fils de son mari. Elle l'envoie un soir chercher de l'eau, et comme le sien voulait le suivre, elle lui dit « Reste ici, si la bête pouvait le manger, ça ne serait pas un grand dommage. » Mais l'enfant continua à le suivre, et arrivés tous deux à la fontaine, la bête fit son choix. Elle prit le plus petit et alla le manger dans un ravin, non loin du village.
On trouve sa théorie une dizaine de pages après le début. Il dit tout de suite, la bête, c'était un monstre envoyé par Dieu. C'est pas une conclusion à laquelle il arrive. Est-ce qu'il le pensait vraiment? Moi, j'ai des doutes. Je pense qu'il se sentait obligé de dire ça. Il est parti sur la théorie de l'évêque de Mende, de l'époque de la bête, qui avait dit ça à la fin de l'année 1764.
« Jusqu'à quand, Seigneur, vous mettrez-vous en colère comme si elle devait être éternelle? Jusqu'à quand votre colère s'allumera-t-elle comme un feu? Nos très chers frères, la justice de Dieu, dit saint Augustin, ne peut permettre que l'innocence soit malheureuse. La peine qu'il inflige suppose toujours la faute qu'il a attirée. Vos malheurs ne peuvent donc venir que de vos péchés. » C'est parce que vous avez offensé Dieu que vous voyez accomplir en vous les menaces que Dieu faisait autrefois par la bouche de Moïse. J'armerai contre eux les dents des bêtes farouches et la fureur de celles qui se traînent et rampent sur la terre. Je serai pour eux comme une lionne, je les attendrai comme un léopard sur le chemin de la Syrie. Je viendrai à eux comme une ours à qui on a ravi ses petits. Je leur ouvrirai les entrailles et leur foie sera à découvert. Je les dévorerai comme un lion et la bête farouche les déchirera. Pères et mères qui avez la douleur de voir vos enfants égorgés par ce monstre que Dieu a armé contre leur vie, n'avez-vous pas lieu de craindre d'avoir mérité que Dieu les frappe d'un fléau si terrible ? Quelle dissolution et quel dérèglement dans la jeunesse de nos jours.
Oh, mon Seigneur !
Cet animal est de la taille d'un taureau d'un an. Il a les pattes aussi fortes que celles d'un ours, avec 6 griffes à chacune, de la longueur d'un doigt. La gueule extraordinairement large. Le poitrail aussi fort que celui d'un cheval. le corps aussi long qu'un léopard, la queue grosse comme le bras et au moins de 4 pieds de longueur, le poil de la tête noirâtre, les yeux de la grandeur de ceux d'un veau et étincelants, les oreilles courtes comme celles d'un loup et droites, le poil du ventre blanchâtre, celui du corps rouge avec une raie noire de 4 doigts depuis le col jusqu'à la naissance de la queue. Cet animal est un monstre dont le père est un lion. Reste à savoir quelle en est la mère. Capitaine Duhamel, 20 janvier 1765.
Assimiler ces attaques à celles de loup me paraît, maintenant je me trompe peut-être, mais je ne sais pas, je crois pas, me paraît complètement faux. C'était des animaux dressés, 2, 3 peut-être plus, je ne sais pas. Parce qu'il y a eu au moins 2 animaux tués. Il y a peut-être eu 3 tués, je ne sais pas.
On lui a donné tous les noms possibles et on l'a jugé de toutes sortes de grandeurs. Dans le vrai, on ignore, en gévaudant comme à Nîmes, quelle est son espèce. Vous ririez d'entendre tout ce qu'on en dit. Elle prend du tabac, parle, devient invisible, se vante le soir des exploits de la journée, va au sabbat, fait pénitence de ses anciens péchés. Chaque paysan, chaque femme fait son histoire. Lettre de Tardieu de la Barthe de Marvejol, fin octobre 1764.
Les gens de cette époque-là connaissaient les loups, ils avaient l'habitude de côtoyer les loups, de les voir. Les loups attaquaient quelquefois les moutons en période de grand froid ou disons en période de climat très 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 dur, hein. Mais les loups n'attaquaient jamais les gens. Toutes les descriptions qui sont consignées dans les archives des attaques, hein, disent très bien que c'est un animal qui a la grosseur d'un gros loup, mais qui n'a pas le comportement du loup, hein, pas du tout. Donc il bondit, se tapit, bon, dont l'apparence était plutôt l'apparence d'une hyène.
Alors un des premiers qui a repris ça, eh ben, c'est Ménatori, Gérard Ménatori. Voilà, c'est lui, 1976, son livre. Alors Ménatori, c'est lui le créateur du parc à loups, du Gévaudan. Lui, il connaissait bien les loups, et c'est lui qui a dit, dès le départ, il a dit, ben non, la baie du Gévaudan, ça n'a pas pu être un loup, parce que moi je les connais, et les loups n'attaquent pas les gens. Et c'est vrai que ces loups, eh ben ils n'attaquaient pas. On allait le voir, il rentrait au milieu de ces loups, et il s'amusait avec eux, il faisait rentrer les visiteurs, etc. Donc, ça c'est clair, que les loups actuels n'attaquent pas les gens. Donc lui, il a dit, ben voilà, il faut trouver une autre solution, et il a écrit ce livre. Lui, il est parti sur l'idée d'une hyène. Et après, ça a été repris par pas mal d'autres. Hein. Il y a eu notamment Dubois qui a repris ça. Voilà, c'est Raymond Francis Dubois. C'est un auteur belge. Son bouquin, il date de 89. C'est le premier qui a dit « La bête était cuirassée. Portait une cuirasse. » Donc, si elle portait une cuirasse, c'est qu'on la lui avait mise. Donc, c'est qu'elle avait un dresseur. Pour l'instant, moi, je mets au défi qui que ce soit de m'apporter le moins de documents connus. Bon, il peut sortir un nouveau document du jour au lendemain, ça c'est pas impossible, mais j'ai mis au défi qui que ce soit d'apporter n'importe quel document connu mettant en cause qui que ce soit dans l'affaire de la bête. Si on prend les documents, c'est une affaire animale, animaux sauvages. Voilà. Alors après, bon, loup ou pas loup, à mon avis, il y a eu des loups, mais il n'y a pas eu que ça. Pourquoi ? Parce que si on prend le rapport marin, qui est le rapport de la dernière bête qu'a tué Chastel à côté d'Auvers, il dit pas clairement c'était un loup. Il dit ça nous a paru être un loup, mais un loup extraordinaire et différent des loups du pays. Donc il parle d'un animal qui ressemble au loup, mais qui n'est pas exactement un loup. Et ça, c'est une chose très importante, à mon avis. Donc au moins un animal, parce que je pense qu'il y en a eu plusieurs qui ont été en cause dans l'affaire de la bête, au moins un n'était pas un loup vraiment pure race, à mon avis.
Je pense qu'on n'a pas suffisamment d'éléments pour pouvoir prétendre dire la vérité sur cette histoire pour l'instant. Je ne sais pas si ça viendra un jour, mais pour le moment, non. Les faits en eux-mêmes ne nous disent rien, hein, sauf qu'il y a eu des morts, des blessés. J'irais plutôt dans la direction d'une espèce de perspective mythologique et symbolique. C'est de ce point de vue-là qu'on peut comprendre cette histoire et non pas se dire bon, c'est un sadique qui était à l'œuvre dans les montagnes à cette époque-là, un serial killer, etc.
Angoisse, terreur dans tous les villages, terreur.
Il y avait une idée philosophique qui était l'idée de la violence et de la cruauté. La violence et de la cruauté partagée par par un groupe. Penser au plan social et culturel dont nous serions plus ou moins tous responsables, qui m'a donné l'envie de dire que finalement la bête, en fait, il fallait presque quelquefois essayer de la comprendre d'abord, mais d'une certaine façon aussi la plaindre. La plaindre parfois parce que, bon, je ne sais pas, elle porte quelque chose qui est véritablement incommensurable, comme la cruauté et la violence humaine.
Et tuez-moi, mais tuez-moi donc, qu'on me tue, qu'on supprime enfin ma survie. Oui, qu'on la supprime, parce que moi, me voilà. Parce que moi, je me donne. Moi, je suis déjà blessée. Et moi-même, si je suis la bête, oui, c'est blessée. Blessée et fatiguée. Fatiguée comme mes rabatteurs par toutes ces chasses imbéciles, épuisée de courses enneigées, plus encore crevée et gelée de tout ce spectacle qu'on me donne. Mais moi, je ne demande qu'à mourir. Je ne demande rien qu'à finir, et au plus vite. Finir ma vie, finir empaillée à la cour du roi. Finir tranquille au muséum d'histoire naturelle, en attendant qu'on fasse ma statue. Finir.
Elle apparaît au début des temps modernes, enfin pas au début vraiment des temps modernes, mais elle apparaît dans le début du rationalisme, hein, 18e, le siècle des philosophes, le siècle de la raison, le siècle bon, dans lequel finalement l'obscurantisme commence à être attaqué de toutes parts. Mais sans se rendre compte que la raison n'est pas sans être quelque part déraisonnable et folle d'une certaine façon. D'autant plus folle qu'elle croit pouvoir tout expliquer. C'est ça, je crois.
La vérité, on souhaite bien sûr la connaître un jour. Alors c'est marrant parce qu'il y en a même qui vont jusqu'à dire on met la vérité, vous la connaissez, on en est sûr, mais vous la dites pas pour pas tuer la poule aux œufs d'or. C'est encore le complot, même en 2010. Certains disent, mais tout le monde est complice, les offices de tourisme sont complices, les associations, les historiens, tout ça, ils sont tous complices pour que les touristes y continuent à venir. Non, c'est pas vrai, hein. La vérité, on la connaît pas. Bon, on souhaite la connaître un jour, mais c'est vrai que si un jour on la connaît, mais ça sera fini, hein. Il y aura plus cette part de mystère, donc il y aura plus aucun intérêt à la chose. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on ramasse, tout ça, c'est parce qu'il y a encore cette part d'inconnu. C'est ça l'intérêt.
Donc vous le cherchez, mais en même temps, vous avez peur de le trouver.
Oui, oui, ça, je l'avoue. Je cherche, mais j'ai peur de trouver. Je veux bien trouver, mais bon, pas trop vite, quoi.
Un documentaire de Marc Chazal, réalisé avec l'aide de Pascal Doumange et Christophe Deleu. Merci à Bernard Soulier, président de l'association Au Pays de la Bête, et à Laurent Fournier. Les textes sont extraits de son livre « Petite histoire des ravages d'une méchante bête » publié aux éditions PSR. Andrada Noaguiou interprète la bête. La musique est signée et jouée par Robert Sicard. Merci à tous les deux. Merci enfin à Geneviève Sicard, Bérénice Barthélemy, Gaël Fontenay et Lionel Prével qui ont prêté leur voix.